Bonjour. Bernard à l'antenne, de retour après quelques semaines de vacances, pour vous offrir une nouvelle année de jazz. Moi, je m'occupe, comme vous le savez, du jazz des origines, des années 20, 30 maximum. Mais si quelqu'un est intéressé par venir un petit peu discuter et présenter des morceaux qu'il aime bien sur toute autre période ou sur la même période, s'il a envie de discuter, de partager son jazz, eh bien, il sera le bienvenu. Vous pouvez prendre contact avec Radio U, avec le site radio-jazz.eu, dans lequel se retrouvent toutes mes émissions, ou directement avec moi au 06 88 41 50 40. 06 88 41 50 40. En attendant, je vais vous offrir une rétrospective d'Armstrong. Rétrospective d'Armstrong de 1923 à 1956.
Le jazz sur Radio U, t'es loin d'avoir tout entendu.
De Tristan Tzara à Lucien Rebatté, de Le Corbusier à Darius Milhaud, une myriade d'écrivains, de bâtisseurs, de parleurs, de penseurs a cru nécessaire une fois ou l'autre de marquer de manière indélébile sa perception d'Armstrong. Satchmo existe, je l'ai rencontré, c'était l'essentiel, cela vous situait un homme dans le temps, dans la mode, dans les guerres de religion. Et là, et de là pouvait couler n'importe quoi sur la grandeur de l'âme nègre comme sur la barbarie des sauvages, sur l'art de décortiquer les cacahuètes comme sur le port du mouchoir blanc, sur la puissance émotionnelle de la musique comme sur la fatigue des lèvres. Armstrong, il faut bien le dire, était pratique. Il a eu suffisamment de génie pendant suffisamment de temps pour supporter tous les fantasmes, toutes les projections, tous les désirs. Armstrong était un personnage de rêve, il faisait rêver et se prêtait à tous les rêves. Il déambulait avec sa trompette et sa voix rocailleuse, et son irruption dans l'histoire permettait de faire naître une infinité d'histoires. Il y avait l'homme, il y avait le musicien, et il y avait toujours le symbole. Joli texte de Denis Constant, voici plus de 30 ans, à l'occasion de la sortie d'un ouvrage de référence consacré à Louis Armstrong, homme, musicien, symbole. Le symbole, déplorons-le, en a pris un sérieux coup depuis ce milieu des années 70, dernière cigarette de liberté, ultime embrasement de l'esprit avant les invasions barbares. Le musicien, agressé par la furie des jours, s'était parfois enlisé, mais personne ne lui en voulait. Quant à l'homme, il avait tiré sa référence le 6 juillet 1971 à New York, à 69 ans, un mois avant son 70e anniversaire. Car on sait aujourd'hui qu'il n'était pas né le 4 juillet 1900, jour de fête nationale, comme on le disait depuis toujours, mais le 4 août 1901 à la Nouvelle-Orléans. Lui, de toute façon, ne pensait au contraire plus âgé que de quelques années. Il en va de Louis Armstrong comme de Pablo Picasso. On peut, chez tous les deux, distinguer des périodes. En somme, la période bleue de l'un serait la période blues de l'autre. En réalité, la toute première, celle qui conduit de l'apprentissage au début de la maîtrise instrumentale, on ne connaît pas grand-chose, faute de documents enregistrés. On sait seulement que le gamin, confié le plus souvent à sa grand-mère maternelle, chante parfois dans les rues, en compagnie de trois petits copains, et avec une déjà drôle de voix. Il affirmait que Joe Oliver, l'un des maîtres d'alors de l'instrument des fanfares, de l'instrument roi des fanfares, le cornet ou la trompette, lui a inculqué les rudiments de son art. Et puis surtout, il y a ses séjours au Wolf's Home, centre d'internement pour mineurs noirs délinquants, qui lui sont fort profitables en le familiarisant avec la musique et les musiciens. À la sortie, le garçon n'en est pas moins contraint de pratiquer pas mal de petits boulots avant que de trouver enfin l'embauche dans les quelques boîtes malfamées de la cité du Croissant. Son talent tout neuf, encore hésitant, est encouragé par le roi de la ville en ce temps-là, King Oliver. À peine ce dernier a-t-il le temps de recommander son protégé à son employeur du moment, le tromboniste Kid Horry, qu'Oliver s'embarque pour Chicago 1917, où débute le nouvel âge d'or de ce que l'on commence tout juste à appeler le jazz. Louis, quant à lui, doit patienter près de 5 ans avant de faire à son tour connaissance de la Cité du Vent, où son maître le fait monter pour lui confier le poste de second cornettiste dans son Creole Jack Band en 1922. Alors, assez parlé, on va écouter un petit peu de musique.
Le jazz sur la nuit, t'es loin d'avoir tout entendu.
Mais pas seulement le petit poulet, on va écouter King Oliver Creole Jack Band, composé de Joseph Joe King Oliver, Louis Armstrong, au cornet. Honoré, Dutré, trombone, Johnny Dodds, clarinette, Lillian Lil Hardin au piano, Arthur Bud Scott au banjo, Warren Baby Dodds au percussion. Enregistré à Richmond dans l'Indiana, le jeudi 5 avril 1923. Et le titre du morceau, c'est Chim Blues. C'est un thème d'Oliver. Dès cette historique séance d'enregistrement du King's Oliver Creole Jazz Band, qui est la première de leur vie pour tous les membres de l'orchestre. Louis Armstrong, au second cornet, se voit attribuer un solo vers le cinquième titre de la séance. Dans ce solo, sur le blues en do, 12 mesures, joué deux fois, Armstrong interprète la même phrase de 8 mesures dans chacun d'eux et improvise sur les 4 dernières mesures. On remarquera avec ce solo la déjà grande maîtrise d'Armstrong sur son cornet. Il n'a qu'un peu plus de 21 ans. Et l'aisance avec laquelle il joue les 4 dernières mesures du deuxième blues, se décalant par rapport au temps pour y revenir et se fondre dans l'ensemble derrière le leader, Oliver. Ce solo préparé, Armstrong a dû le travailler avec sa future femme, Lillardine, qui doit être à l'origine de ce long développement très ragtime de 8 mesures, faisant penser à un exercice composé de petites phrases répétées de 2 mesures, attaquées après le temps, difficile à jouer et que Louis Armstrong interprète à la perfection. Nous écoutons d'abord Chim Blows. Froggy Moore, toujours par le même orchestre, King's Oliver's Jazz Band, Creole Jazz Band, avec Joseph Joe King Oliver, Louis Armstrong au carnet, Honoré Dutré au trombone, Johnny Dodds à la clarinette, Lillian Lynn Hardin au piano, Arthur Bud Scott au banjo, et Warren Baby Dodds aux percussions, enregistré à Richmond dans l'Indiana, le 6 avril 1923. Froggy Moore est un thème de Jones et Benjamin Spike et de Ferdinand Jellyroll Morton. Frederick Moore, c'est le nom d'un comédien pianiste, Benson Frog Hay, œil de grenouille. Frog Ace et Œil de Grenouille, Moore. Il faut savoir que le leader du groupe est Joe King Oliver. Froggy Moore est donc mené par Oliver jusqu'à la modulation amenant le dernier thème, qui sera joué deux fois. À 1 minute 43, c'est Louis Armstrong qui joue les 32 mesures, qui mène les 32 mesures jusqu'à 2 minutes 20 avant de se fondre dans l'ensemble. Dans ce presque solo, on découvre sa sonorité chantante, son swing, son déconstruction due à sa manière d'attaquer les notes très légèrement après le temps. Froggy Moore. King Oliver's Creole Jazz Band. Entre 1917 et 1922, malgré un net ralentissement des affaires consécutifs au fort exode des ruraux dans le sud vers les centres industriels du nord, le nouveau musicien avait trouvé sans mal du travail auprès de Kid Ory, de Faith Marable et d'Oscar Papa Célestin. Soit en ville, soit sur les grands bateaux à roues remontant le fleuve. Ory, Marable et Célestin auront bien quelques disques, mais seulement après le départ de Louis. Ils donnent néanmoins une petite idée du contexte musical dans lequel évoluait alors le jeune homme. Il en va de même pour les enregistrements que fit de 1940 à 1949 Bunk Johnson, que l'écume des jours n'a malheureusement guère épargné. La période dite de formation prend fin quand Louis, rendu à Chicago, grave ses premières cires 1923. En un clin d'œil, il rattrape ce qu'il estime être son retard par rapport à ses collègues arrivés depuis plusieurs années et dont le style s'est notamment modifié au contact du public et des musiques en vigueur dans le Nord. Ses premiers solos enregistrés sur Froggy Moore et sur Shim Blues virulent, parfaitement maîtrisé, impeccablement mis en place, pourvoyeur d'un swing généreux et d'une inflexible vitalité, place d'emblée et pour toujours le disciple loin devant son maître. Le jeune Louis sait à présent jouer. Il sort le contre-fa et le contre-sol avec une de ses facilités, écrit Oliver à Bung Johnson. Le jeune Louis est prêt à intégrer New York en qualité de troisième trompette, celui qui s'occupe de la plupart des solos. La formation de Fletcher Anderson, le plus en vue des grands orchestres noirs new-yorkais de l'heure 1924-1925. Encore faut-il à présent réellement définir son originalité, sa place, son rôle capital dans le siècle. Chez Oliver, malgré le nombre d'avancées remarquables, la belle vieille polyphonie de la Nouvelle-Orléans, l'esthétique bâtie selon un contrepoint à trois voix, continue de donner miner l'ensemble. La définition encore timide du rôle de soliste qui s'y révèle, notamment l'intervention du célèbre d'Oliver sur Dibbermouth Blues et celle de Louis déjà mentionnée, ne représente que l'étape initiale. Au milieu de ses copains du pays, Armstrong joue comme il respire, sans véritablement se rendre compte de sa puissance, de sa force et de la spécificité de son jeu. Le séjour chez Anderson se chargea de les lui révéler. Le changement de milieu, cette extériorisation au sein d'un contexte différent où l'accent se trouve déplacé de l'expression la plus adéquate de la tradition à la recherche de nouvelles voies, de solutions pour l'avenir, tout cela contribuera à fonder la distanciation nécessaire. C'est chez Fletcher Anderson, Copenhagen, entre autres, qu'éclate pour la première fois en plein soleil le génie de Louis Armstrong. Il s'installe définitivement l'ère du soliste roi esquissé par King Oliver. En contrepartie, le génie armstrongien naissant révélera à Anderson, à son arrangeur Don Redman et à plusieurs autres membres de l'orchestre, dont Coleman Hawkins, les directions à suivre dans leur recherche. En somme, ce séjour assez bref d'Armstrong à New York représente pour l'évolution du jazz une sorte de projet capital.
Le jazz sur la nuit, t'es loin d'avoir tout entendu.
Alors, nous allons écouter Copenhagen, un terme de Charlie Davis, de Walter Melrose, avec l'orchestre de Fletcher Anderson and his Orchestra, avec Elmer Chambers, Howard Scott à la trompette, Louis Armstrong au cornet, Charlie Green au trombone, Williams et Buster Bailey, Donald Matthew, Don Redman à la clarinette, alto saxophone et à l'arrangeur, et Don Redman est l'arrangeur, Coleman Hawkins à la clarinette, au saxophone, James Fletcher, Mac Anderson au piano, et c'est le chef d'orchestre, Charlie Dixon au banjo, Raphaël Ralph Escudero au symphony bass, et Joseph Kaiser Marshall aux percussions. Enregistré à New York le 30 octobre 1924, Copenhagen. Thank you. De Fletcher Anderson, Armstrong se retrouve dans la section de cuivre comme troisième trompette, tout en ayant conservé son cornet. Son rôle est donc d'assurer les troisièmes voix. Durant son séjour d'un an à New York avec cette formation, il aura parfois l'occasion, dans certains enregistrements, de mener les ensembles. Mais surtout, dans presque tous les morceaux, lui sera accordé un solo, même si souvent trop court. Soit qu'il les ait rodés sur scène, soit qu'il les ait appris par cœur, on remarque que si les solos sont admirablement construits, la plupart ne laissent que très peu de place à l'improvisation spontanée d'une prise à l'autre. D'autre part, Armstrong ayant été engagé pour ses qualités de musicien hot, c'est-à-dire qui chauffe, qui swing, Anderson le faisait accompagner presque toujours par le tuba et la cymbale. Premier temps, tuba. Deuxième temps, cymbale, ici le banjo, ce qui empêche parfois le soliste de s'évader de ce rythme imposé. C'était Copenhagen que nous venons d'écouter, et Copenhagen, c'est le nom d'une marque de tabac. Et donc, nous écoutons un autre morceau. Alors là, cette fois, c'est avec Terence Williams, Blues Five, avec Louis Armstrong au cornet, Aaron Thompson à la trombone, William C. Buster Bailey au soprano saxophone, Clarence Williams au piano à la direction, Narcisse Buddy Christian au banjo, Evan Tyler au vocaux. Enregistré à New York le 6 novembre 1924, le morceau s'appelle Everybody Love My Baby. Entre parenthèses, but my baby don't love nobody but me. C'est un morceau de Spencer Williams et de Jack Palmer. Résident à New York et toujours membre de l'orchestre de Henderson, début octobre 1925, Armstrong sera sollicité pour enregistrer avec diverses chanteuses de blues ou de revue, mais surtout avec un petit orchestre de studio, celui du pianiste-compositeur Clarence Williams, originaire lui aussi de la Nouvelle-Orléans. Le titre présenté ici a un impact important, aussi bien sur les musiciens de l'époque que sur son épouse Lee Lardine. Armstrong, il faut savoir qu'il avait dans ces années-là de très nombreuses et fameux trompettistes, King Oliver, Freddie Keppart, Tommy Lanier, Joe Smith, pour en citer quelques-uns. Et brusquement, Lee découvrait ce disque ce genou un peu plus gros, menait une collective, dans le style de Joe Oliver, en utilisant la sourdine Plunger avec plus de fougue, d'invention et de disque que le King lui-même. Le Plunger est une sorte de coupe en caoutchouc ressemblant à un débouche lavabo que l'on tient devant le pavillon en le fermant et en l'ouvrant pour créer le son au bois. Déjà, l'élève surpassait le maître. Donc, Everybody Love My Baby, Clarence Williams.
There's no need for improvements, my sweet daddy's built for speed. That's why baby, but my baby don't love nobody but me. Nobody but me.
Toujours cette période, dans ce séjour, bref, d'Armstrong à New York, Louis fait encore de nombreux disques avec des petites formations de studio, placées le plus souvent sous la baguette du pianiste, compositeur, éditeur Clarence Williams, dans lequel il se sent plus libre que chez Anderson. Ainsi qu'en témoigne Everybody Love My Baby, qu'on vient d'écouter, et Cake Clean Baby, qu'on va écouter, annonciateur des chefs-d'œuvre à venir. Toujours en marge de son activité principale, il accompagne pour le disque nombre de chanteuses telles que Ma Rainey, Magic Johnson et les trois dames Smith, Clara et Trixie, et surtout Bessie, la plus grande de toutes. Nous allons écouter Cakewalking Baby. Alors, donc, cette fois, c'est Cakewalking Baby. C'est un thème de Chris Smith, Henry Troy et Clarence Williams. Je n'ai pas de date de création. Et l'orchestre de, donc, est Eva Taylor, accompagnée par Clarence Williams Blues Five, avec Eva Taylor au vocaux, Louis Armstrong au cornet, Charlie Irvis au trombone, Sidney Bechet au soprano, Clarence Williams au piano et à la direction, Narcisse Buddy Christian au banjo, enregistré à New York le 8 janvier 1925. Toujours avec sa petite formation de studio de Clarence Williams, Armstrong se retrouve à côté de Sidney Bechet, son aîné de plusieurs années. Notre trompettiste explose les deux thèmes avec sa précision habituelle, puis la grande professionnelle Eva Taylor, chanteuse méconnue et épouse de Clarence Williams, chantera sa partie. Armstrong reprend alors son rôle de leader pour mener deux collectives. Dans la première, il ne s'écarte pas trop de la mélodie, laissant la place à l'envahissant mais extraordinaire Bechet au saxophone soprano. Ce dernier prend des breaks très lyriques. Le jeune et fougueux cornettiste se déchaîne en menant la collective finale avec une énergie incroyable, en jouant d'un break d'une virtuosité stupéfiante. Mais Bechet n'est pas un homme facile, et dans cette collective, s'il n'essaie pas de se laisser enfoncer par le jeune pays de la Nouvelle-Orléans, il se retrouve de temps en temps à l'unisson, ayant tendance à vouloir mener lui aussi ce qui était dans son tempérament bouillonnant. Précision, le cakewalk, marche de gâteau, est à l'origine une danse d'esclaves parodiant les manières de leur maître blanc. Le mot cakewalk fait référence au gâteau que les meilleurs couples de danseurs recevaient, paraît-il, comme prix dans les concours de danse. Cakewalking Baby.
Demonstrators talk of sound, green and brown, kicking them up and laying them down.
because they like to call up there in a class all alone. The only way for them to lose is to cheat them. You may try them, but you'll never beat them. Spread your stuff, boy, you won't do nothing different. Take walking baby from home.
From Home par Eva Taylor, accompagné par Clarence Williams, Blues 5.
Le jazz sur la nuit, t'es loin d'avoir tout entendu.
Et nous écoutons maintenant Bessie Smith au vocal, Louis Armstrong au cornet, Fred Longshaw à l'harmonium, enregistré à New York le 14 janvier 1925, Saint Louis Blues en termes de William Christopher Handy. C'est certainement grâce à Fletcher Anderson qu'Armstrong a eu l'opportunité d'enregistrer en studio avec des chanteuses de blues ou de vaudeville telles que Marinette, Clara Smith, Trixie Smith ou Maggie Johnson. Pardon, Maggie Jones. Mais la plus grande d'entre elles était sans nul doute Madame Bessie Smith, soupçonnée l'impératrice du blues. Le morceau enregistré ce jour-là est une composition du trompettiste-compositeur William Christopher Handy et c'est peut-être la plus belle version enregistrée de ce morceau. Louis Armstrong n'y est pas pour rien. En effet, il complète les phrases chantées de Bessie Smith avec un brio et une émotion remarquables. Il change presque lui aussi avec son cornet et l'harmonie qui apporte un côté religieux à cette magnifique représentation. Saint Louis Blues, Bessie Smith.
Thank you.
Smith, Saint Louis Blues. Rentré à Chicago à la fin de 1925, Louis y retrouve son épouse, Lille, qui s'est débrouillée pour lui trouver du boulot et un contrat d'enregistrement sous son nom chez OK. Il retrouve aussi l'autre ambiance, celle de la famille qui s'attache à mener à son point d'extrême perfection, et donc d'achèvement, une musique davantage tournée vers la mise en œuvre des découvertes d'un passé encore récent, vers la réalisation de la tradition. Plus que tous les autres, plus qu'Oliver, plus que les frères Dox, Freddie Keppard, Jerrold Morton ou Jimmy Noon, Louis a la tête de ses Hot Five 1925-1927 et Hot Seven en 1927, va précipiter le processus, achever la traduction en la réalisant, lui faire dire une fois pour toutes ce qu'elle a dit de plus élaboré, de plus signifiant, et lui faire rendre gorge. L'aide des compagnons du Sud, Horry, Johnny et Baby Dodds, John Saint-Cyr, qu'il présente successivement dans Get Buckled Blues, lui sera évidemment les plus précieuses. Encore que le fossé soit appelé à se creuser rapidement entre les autres, destinés à demeurer à l'intérieur de cadres verrouillés, et les conquérants qui se fait soliste absolu dans Cornish Hop Suey, Muskrat Rumble, EBGB, et son vocal scat, 12 Street Rag, Potato Head Blues, et son fabuleux Stop Chorus, qui rend palpable, immanent, ce qui n'était qu'en puissance dans le jeu des anciens trompettistes néo-orléanais, en tout en le dépassant. Alors, nous allons écouter un petit poulet.
Le jazz sur la nuit, t'es loin d'avoir tout entendu.
Et nous écoutons Gut Buckled Blues, un thème de Louis Armstrong enregistré pour OK. C'est Louis Armstrong and his Hot Five, Louis Armstrong au cornet, à la parole, talking parole, et chef d'orchestre, Edward Kidd Horry au trombone et qui parle aussi, Johnny Dodds à la clarinette, Lillian Lil Armstrong au piano et John Saint-Cyr au banjo, enregistré à Chicago le 12 novembre 1925. À la présente séance, après avoir enregistré deux morceaux, le responsable, voyant qu'il restait du temps, demanda à Armstrong s'il n'avait pas un autre titre à enregistrer. Armstrong proposa un blues en duo et eut l'idée originale d'exhorter ses musiciens, chacun par leur nom, pendant leur solo. Johnny Dodds devait introduire Armstrong, mais le clarinettiste était intimidé et bafouillant pendant la répétition du morceau, et c'est finalement le trombondiste Edward Kidd Horry qui s'en charge dans le disque. Si annoncer ses musiciens sur scène était chose courante, Armstrong fut le premier à le faire sur un enregistrement. Quant au titre, il vient spontanément à l'esprit d'Armstrong. Il se souvenait que les marchands de poissons à la Nouvelle-Orléans vidaient les entrailles, guttes, des poissons dans un seau. Donc nous écoutons Gut Buckled Blues.
Oh, play that thing, Mr. Cynthia Lars. You know you can do it. Everybody from your knees can really do that thing. Hey, hey. Thank you.
Par Louis Armstrong and his Hot Five. Et puis maintenant, toujours Louis Armstrong et his Hot Five, c'est les mêmes. Louis Armstrong à la trompette et aux vocaux, Edward Keats, Horry au trombone, Jody Doss à la clarinette, Lynn Armstrong au piano, John Saint-Cyr au banjo, Saint-Cyr, Horry et Armstrong, Shouting in the Coda. Voilà. C'est enregistré le 26 février 1926. EBGB, le morceau s'appelle EBGB, c'est un morceau de Boy Atkins. Avec EBGB, nous avons pour la première fois un vocal interprété en scat par Louis Armstrong. Le scat consiste en cette manière de chanter en remplaçant les syllabes par des onomatopées sans se soucier d'autre chose que de leur musicalité et de leur swing. Le scat d'Armstrong en est l'exemple le plus frappant, mais aussi le plus difficile à recréer. D'autre part, si d'aucuns pensèrent que Armstrong en fut l'inventeur, il a lui-même souvent contredit le fait. D'après une interview de Johnny Saint-Cyr, qui semble digne de confiance, le superviseur de la séance, qui savait que les disques avaient un vocal se vendait mieux, demanda qui allait chanter. Personne ne répondit car la partition ne comportait pas de paroles. Armstrong en aurait donc écrit aussitôt au studio, même pour le premier vocal, sachant pertinemment qu'il chanterait le second en scat, comme il devait déjà le faire sur scène où il se produisait au Dreamland. Un autre mythe veut faire croire que cette petite formation de studio ne répétait jamais ou alors seulement en studio juste avant d'enregistrer. C'est possible lorsqu'il s'agit de thèmes aisés, mais ce n'est pas crédible pour d'autres plus difficiles. En fait, tout se faisait très vite, comme nous l'apprennent certaines interviews, Kid Horry, les enfants de Johnny Dodds par exemple. Les musiciens répétaient en effet les thèmes inconnus ou difficiles avant de se rendre au studio. Sur place, ils devaient certainement préparer rapidement un arrangement oral hors de des solos, tel break, qui l'introduction, ou ajouter un morceau connu de tous, comme un blues tel que Get Bucket Blues qu'on vient écouter. Ce titre est un succès considérable car le disque fut vendu à 40 000 exemplaires en quelques semaines, la norme étant 5 000 ou 10 000. Donc nous écoutons EBGB. Thank you.
I mean, the jibbies talking about that there's a heapy jibbies you see, cause that boy chasing with a little bit of joy. Say, don't you know it? You don't be blue. Someone will teach you, come on, and do that dance. They call the heapy jibbies dance. Yes, ma'am. Father's got the heapy jibbies dance. Yes, he's got to keep on keeping out time. Come on down to that dance. They call it heebie jeebies dance. Sweet mama, papa got to do the heebie jeebies dance.
EBGB, donc par Louis Armstrong and his Hot Five. Toujours par les mêmes, Louis Armstrong et his Hot Five. Voici Cornet Chop Suey, thème de Louis Armstrong à l'enregistrement de cette composition écrite alors qu'il était encore chez King Oliver. Nous découvrons la déjà grande virtuosité d'Armstrong. En dehors du solo de piano, lui permettant peut-être de se reposer, ce morceau lui est entièrement consacré. Après une introduction à couper le souffle, exécutée à une cadence rapide, Armstrong expose le couplet et le refrain. Suite au solo du piano, il improvise sur 16 mesures en stop chorus. Le stop chorus est un procédé selon lequel l'orchestre interrompt le tempo à 4 temps pour ne marquer que le premier des 4 temps de la mesure. Il poursuit en improvisant sur le refrain avec des breaks pleins d'inventions pour terminer par un coda extrêmement brillante. Ce morceau est un chef-d'œuvre pour la construction, l'interprétation, le swing et la maîtrise de l'instrument et les idées. Armstrong semble jouer avec une aisance stupéfiante. C'est du jazz à l'état pur. Cornet Chop Suey eut un énorme impact sur les autres trompettistes et musiciens en général. Beaucoup s'en inspirèrent ou s'amusèrent à citer l'introduction dans leur solo, comme l'a fait parfois Charlie Parker au saxophone alto. Précision, Cornet Chop Suey. Le Chop Suey est un plat chinois selon la sorte de ratatouille. À cette époque, Louis Armstrong était très friand de cuisine chinoise, d'où ce titre, Ratatouille de Cornet. Ce morceau terminera notre émission et nous nous retrouvons la semaine prochaine. Voici Cornet Chop Suey.
T'es déjà sur un lieu? T'es loin d'avoir tout entendu.